Vous écoutez
RMC.
RMC.
Faut être clair, messieurs, hein. Si c'est Ronaldinho qui fait ça fait le tour des télés du monde. Ouais. C'est Damien Perkis.
C'est Perkisinho.
On sait très très bien ce que représente le Real Madrid sur le marché des transferts. Peut-être que le Real Madrid a envie de sauter la banque. Non, c'est pas inédit, mais ça remonte au calanque hein, quand même.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Simon Dutin, avec Oleda Gerchour et avec Damien Perkis, on est ensemble jusqu'à 22h. C'était quoi ce commentaire là, Damien? Souvenir?
C'était un but avec Sochaux, mon retour à Geoffroy Guichard.
Dis-le,
t'as vu, il est humble, Damien.
Non, mais
il est humble, hein. T'as mis un but de 40 mètres.
C'était anecdotique, ouais. Après, il y en a qui disent que je n'avais pas fait exprès, mais il y en a d'autres qui ont dit que j'avais fait exprès.
Et toi, tu dis
et
quoi?
La réalité, c'est quoi? Je la garde pour moi, la vérité. Mais forcément que mon pied ne me ment pas, donc c'était fait exprès.
Damien est avec nous ce soir. La Ligue 2, il y a eu des buts pendant la pause. Allons notamment à... il y a eu un but au Serre ou pas? Non, 2-0 toujours
but
pour Auxerre. But de Caen surtout. On voit ça avec Edgar Grelot.
Oui, 1-0 pour Caen face à Annecy. Le but de d'Ali Abdi. Ça bouge aussi à 3 puisque c'est Pau qui ouvre la marque grâce à Charles Bolli. Et enfin, 3 buts hein, pendant la pause avec l'ouverture du score de QRM face à Amiens. But de Pierret sur le reste des pelouses. 0-0 partout.
Mais toujours 2-0 pour Auxerre face à Laval. 0-0 entre Guingamp et Angers. Bordeaux-Dunkerque, 0-0 également, on ira dans quelques instants. Avis de Walid Acherchour ce soir dans Génération After, qui voudrait faire un mea culpa. Alors certains diront, notamment sur Twitter, tiens, c'est pas le 18e mea culpa de Walid cette saison?
18e, je sais pas, mais oui, il doit en avoir, ouais.
Mais c'est,
mais c'est ça l'honnêteté, non?
Ben oui. Une preuve d'humilité, le reconnaître ses erreurs, c'est très bien.
Le problème, c'est que si on s'en fout.
Oui, le problème, c'est que si on fait des mea culpa tous les 15 jours, après, ça n'a plus, enfin, notre parole n'a plus aucun sens.
Ouais, enfin,
ce que je veux dire.
Si en fait, si on s'enfonce dans nos combats, on va dire oui, t'es malhonnête, etc. Tu veux pas voir la réalité en face. Par contre, quand on fait des mea culpa, on nous dit pourquoi tu fais des mea culpa.
Alors, il concerne Vitinha, ce mea culpa. Jingle Walid.
Ouais. Voilà, on a retrouvé une équipe compétitive. C'est pas extraordinaire. Hein. Fred Antonetti n'invente pas l'eau chaude. Encore une fois.
Oui.
Pourquoi?
C'est l'eau tiède.
Ah, c'est l'eau tiède.
Oui, oui. L'expression, c'est l'eau tiède.
Très bien, bah je note.
Tu la notes. Vas-y, Walid.
Il entre au top 50, celui-là.
Bon, il y est déjà, tu as vu, il y a même un jingle.
Ah, t'as fait mieux. T'as fait mieux, je pense.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
T'as fait mieux.
Ouais. Bon. Non, je voulais parler de Vitinha. Bien évidemment qu'on en a beaucoup parlé cet été. Est-ce qu'il allait prendre le milieu de terrain du Paris Saint-Germain à son compte? Moi, j'avais toujours et j'ai toujours émis des doutes sur le fait que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, par rapport à ce qui se faisait de mieux, notamment en Europe, pouvait me poser pas mal de questions, que ce soit en qualité, voire même en densité, sur les recrutements de Ougarté, sur Warren Zaïre-Emery. Est-ce qu'il allait s'imposer à son jeune âge, et si on n'allait pas le surresponsabiliser dans cette saison-là? Fabien Ruiz, Carlos Soler, celui qui était le plus en avance dans tous ces joueurs-là, c'était bien évidemment Vitinha. Mais j'attendais de voir dans ce rôle de leader en milieu de terrain, et force est de constater que moi, cette année, il m'a bluffé. J'attendais de voir et j'ai vu. J'ai vu une qualité de leader. J'ai vu deux buts très très importants à un partout, à l'aller et au retour, qui ont fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Je trouve que dans son rôle de numéro 6, il y a beaucoup de débats. Numéro 6, numéro 8, je trouve que face au jeu, il joue beaucoup plus vers l'avant. Il a cette capacité à sortir du pressing et d'apporter sans ballon et avec. Ce que je ne trouvais pas exactement au poste de numéro 8, où parfois il était un peu frileux, parfois il jouait un peu de manière latérale. Et moi, je suis totalement conquis. Déjà, c'est un joueur qui, techniquement, quand il est arrivé de Porto, on disait que ça pouvait être le chouchou du Parc des Princes, parce qu'il a quelque chose balle au pied. Mais dans tout ce que ça comporte, être le leader du milieu de terrain du PSG, il m'a totalement bluffé, et je ne le pensais pas à ce niveau-là. Je pensais que même en termes de personnalité, ça pouvait être un joueur qui s'efface dans les gros rendez-vous, qui ne prend pas qui ne pouvait pas répondre au statut qu'il avait. Et ça n'a pas été le cas. Ça a été l'un des meilleurs, notamment contre la Real Sociedad en deuxième mi-temps, quand Luis Enrique l'a changé de place au poste de numéro 8, au poste de numéro 6. Et là, sur la double confrontation, pour moi, il est top 3 du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que Luis Enrique l'a aussi fait beaucoup progresser. Il en a parlé dans ses interviews. Mais voilà, je voulais en parler ce soir. Il y a un devoir d'honnêteté là-dessus. Et globalement, même le milieu de terrain, où j'attendais, et j'attends toujours. Mais Vitinha, franchement, chapeau. Chapeau, et on attend confirmation aussi contre Dortmund. Mais pour l'instant, moi, je suis conquis et je rentre définitivement dans le train.
Damien, es-tu conquis également? Est-ce que tu es surpris également par l'évolution de ce joueur?
Surpris, non, parce que je pense qu'il y a toujours la progression à prendre en compte au fur et à mesure de la saison. Moi, après, je pense que son début de saison, il a été marqué par le gros début de saison de Ugarte, en position de sentinelle, qui avait donné l'unanimité, en fait, à Ugarte pour pouvoir rester à ce poste-là. Et finalement, quand on a vu qu'Ugarte a baissé un peu le pied, il a fallu trouver une solution de rechange. Et pour moi, et c'est là où je rejoins Walid, c'est qu'en position de sentinelle, quand il est face au jeu, il est bien meilleur, avec une visibilité beaucoup plus élargie. Quand on a un poste de relayeur de numéro 8, on va le voir peut-être plus axé sur un côté, à vouloir jouer forcément sur son côté ouvert. Là, il a vraiment tout le champ devant lui pour pouvoir jouer. Et puis, il y a cette prise de responsabilité, être capable d'aller se projeter dans la surface de réparation et pouvoir marquer les buts qu'il a marqués, aussi importants. Voilà, je pense qu'il a pris une place qui est la sienne. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est le leader technique de ce milieu de terrain. C'est celui qui fait vivre le milieu de terrain et qui permet aussi aux autres d'être bons. Même si Zaïre Emery, je pense, a baissé un petit peu le pied, oui. et que Fabian Ruiz redevient un petit peu le Fabian Ruiz de Naples. Voilà, pour moi je trouve qu'il y a quand même une progression chez lui, mais il y a une marche.
C'est mieux.
Je trouve qu'on va un peu plus vers le Fabian Ruiz.
Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au début de saison, parce que Warren Zaïre Emery était incroyable en début de saison, il l'est moins. Même si, attention, il aide bien Vitinha.
Moi, je trouve qu'il lui fait du bien.
Quand il monte, il fait un peu l'escalier, il redescend, il compense.
Ça, c'est logique.
Mais Ugarte était très très fort le premier mois, en tout cas, allez, on va dire un mois et demi, deux mois, avant que la Ligue des Champions nous ouvre les yeux sur ses qualités techniques, notamment à l'extérieur. Sans Ugarte, avec un Warren Zaïre Emery qui est rentré un peu dans le rang, c'est lui qui tire le collectif vers le haut. C'est ça, en fait.
Qui assume le jeu, en fait, même de. Quand on les voit repartir de derrière, souvent, on avait vu toutes les difficultés, notamment à Newcastle, où ils avaient cherché à repartir de derrière, ça avait été nul. Ben là, ils sont capables, avec Vitinha, d'avoir autre chose et de proposer autre chose dans l'élaboration du jeu, et je trouve ça intéressant.
Son match contre le Barça, à l'aller, où il fait un match incroyable. Le match contre Lyon qu'il fait dimanche, et même la deuxième mi-temps contre le Barça, où c'est lui qui met le deuxième but, moi, à ce moment-là, j'ai tout compris. Là, en fait, t'as la palette d'un joueur qui me convient totalement, c'est-à-dire avec, sans ballon, et vraiment, ouais, chapeau.
Simon.
Bon, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. C'est un mec qui fait gagner son équipe, déjà, pour commencer. Le repositionnement a été bénéfique parce qu'il a confirmé ce qu'on pressentait, à savoir que, même si c'est un petit peu péché de dire ça à Paris, on sentait qu'il était un peu verratiesque, notre ami Vitinha. Il a du sang glacé dans les veines. Il y a ce genre de milieu de terrain, tu sais, le temps ralenti lorsqu'il a le ballon dans les pieds. On savait qu'il était très très fort dans les petits espaces, mais dans cette position de sentinelle, très souvent il est confronté au premier pressing adverse, et effectivement il a cette magie pour s'en sortir et pour éclairer le jeu. Parce que, petit dribble dans les petits espaces, derrière le jeu s'ouvre et il la lâche un petit peu plus rapidement, je pense, que Verratti. Il est à la conclusion des actions, ce que faisait pas non plus le hibou. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse, je pense qu'il a quand même besoin de mecs devant lui qui passent le burin sur le milieu de terrain adverse quand même. Je pense que le volume d'un Zaïre Emery lui fait du bien.
Oui, non, bien sûr, mais je dis juste que la dynamique, elle ne plaide pas pour Zaïre Emery, même si, attention, il a quand même un niveau, il a toujours un niveau, ça va être du 5 sur 10, quoi. Parfois un peu 4 quand il est un peu moins bien, mais je dis juste que c'est lui qui tire le collectif vers le haut, et je ne l'imaginais pas aussi bluffant sur ce type de match. Et quand tu fais tout le packaging, c'est-à-dire capacité à jouer vers l'avant, à relancer, quand on sait que c'est très très important aujourd'hui dans le foot de haut niveau de contrer un pressing adverse, et il l'a fait, notamment à plusieurs reprises. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur joueur dans l'effectif dans ce domaine-là, pour essayer de ressortir les ballons. Venez me chercher, les gars, vous inquiétez pas, je vais pouvoir trouver Fabian Ruiz, Dembélé, Hakimi très très rapidement. Et puis derrière, salir le short, plus être décisif, c'est dur de trouver des défauts.
9 buts cette saison déjà.
C'est ça, il a une appétence quand même pour l'offensive, le fait de marquer des buts. Il reste plus qu'un problème à régler, il est capillaire, voilà. Il faut qu'il se trouve
coiffeur
dans la capitale.
Tu nous fais une Daniel, là, c'est quoi le truc?
Pourquoi? C'est un...
Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui te gêne dans sa coiffure?
Je sais pas, s'il y a un problème. Il y a quelque chose qui va
pas.
Oui,
mais ça l'empêche pas de jouer au football.
Il faut trouver un style capillaire.
Quand tu veux, toi, il faut qu'il y ait du style.
Oui, il a son truc, non?
Damien, t'es d'accord avec ça ou pas? C'est important. Ça fait le joueur aussi.
Moi, je vais pas parler de cheveux, moi, ici. Moi,
c'est capillaire. Ouais. C'est pour ça que t'as pas posé la question à Walid, non? Mais ça n'a rien à voir. Moi, c'est franchement.
Et en plus, je réponds à cette question, mais
j'étais pas celui qui rigole, c'était pas le plus coquet.
Peut-être avant de sortir sur le terrain, mais pas quand j'étais sur le terrain.
Allez, pause, on prend Chavetier dans un instant. Appelez-nous 32-16 supporters parisiens. Où placez-vous dans la réussite de la saison parisienne, bien sûr? Est-il votre top 1, top 2 parisien cette saison? Vous nous appelez au 32-16 pour en parler. La Ligue 2, est-ce qu'il y a eu des buts, Edgar Grelot?
Pas de nouveaux buts à signaler, mais un carton rouge. D'accord. À Caen, carton rouge côté Annecy pour Romain Pajot pour un tacle complètement raté, carton rouge direct.
Au Serre Laval, Fred Joly, le temps, le score.
Il reste un quart d'heure à jouer dans cette première période et la Josser a fait le break, il mène 2-0. Lomami, le défenseur contre son camp pour Laval, et puis le deuxième but au Serrois signé Aillé, 2-0 pour Auxerre.
Guingamp, Angers, Xavier Grimaud.
Et toujours 0-0, c'est plutôt équilibré avec les meilleures situations malgré tout pour Guingamp. La dernière en date avec un bon débordement de Merguem centre au premier poteau et Victor Lobry qui voit sa frappe qui passe au-dessus des buts de Yaya Fofana. 0-0 entre Guingamp et Angers.
Et Bordeaux-Dunkerque, Nico Paul Orsi.
La demi-heure de jeu 0-0, hein, grosse domination des Bordelais avec Dunkerque qui joue très très bas. Il y a eu plusieurs occasions, mais pas de but pour l'instant. Ils sont maladroits devant les Bordelais à l'image de leur saison. À noter que les banderoles sont sorties, hein, côté supporters. Vous méritez un stade à l'image de votre saison vide. Nous ne soutenons pas un club qui nous abandonne. Grève des supporters ce soir à Bordeaux. Il y a vraiment tout qui part un peu en sucette. 0-0 la demi-heure de jeu.
Et Arsenal mène 1-0 face à Chelsea après 15 minutes de jeu, but de Leandro Trossard. Arsenal leader, hein, virtuellement de Première Ligue avec deux matchs en plus par rapport à City, troisième. Reste avec nous la suite de Génération After dans un instant sur RMC, 21h16. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Damien Perkis, avec Simon Dutin, vous l'avez déjà chaud. Merci d'écouter RMC, merci d'écouter Génération After. On parle du PSG, on parle de Vitinha après l'avis de Walid, hein, qui est bluffé par l'évolution du milieu de terrain portugais. D'abord la Ligue 2, encore un but à Auxerre, Fred Joly.
Oh, des Auxerrois intenables après deux matchs catastrophiques. Eh bien, ils se sont réveillés, ils sont en train de faire le plaisir des supporters auxerrois. Le troisième but, l'ouverture, elle est signée Perrin en profondeur pour Aillé, qui une nouvelle fois n'a pas tremblé face à Samassa. Et met le ballon au fond du but lavallois. La JOCR mène 3-0 après 35 minutes de jeu.
Et toujours 0-0 entre Guingamp et Angers, entre Bordeaux et Dunkerque. Un but a été marqué à Cuvilly, Edgar.
Oui, avec l'égalisation d'Amiens, signé Mafouta, un partout entre QRM et Amiens. On rappelle les autres scores après 35 minutes. 0-0 entre Bastia et Concarneau, 1-0 pour Caen face à Annecy. 0-0 entre Grenoble et Saint-Etienne, un partout donc entre QRM et Amiens. 0-0 Rodez-Paris, 1-0 pour Pau à 3 et 0-0 entre Valenciennes et Ajaccio.
Vitinha, on parle de Vitinha du PSG. Dans Génération After. J'en regardais tout à l'heure, on peut parler en émission. Troisième temps de jeu du PSG, Vitinha. 41 apparitions sur 45 matchs possibles. Tiens, d'ailleurs, j'en regardais aussi, on en parlait avec Walid. Vous savez qui, Walid connaît la réponse, qui est le joueur gardien confondu qui a le plus de temps de jeu au PSG? Selon vous, Simon, Damien?
Non, j'aurais dit Hernandez.
3374 minutes.
Danilo.
C'est Kylian Mbappé.
Hein?
Voilà. Tous ces débats pour aller arriver.
C'est Kylian Mbappé qui joue le plus au PSG.
Qui joue le plus sous Luis Enrique.
Sous Luis Enrique, mais il le déteste. Mais comment il fait? Mais il l'insulte à tous les matchs. Il lui manque de respect.
Tu vas te faire insulter par quelqu'un qui t'écoute peut-être ce soir. Et qui sera là à 22h. C'est pas impossible. Mbappé, voilà, numéro 1 temps de jeu au PSG. 3374 minutes. Devant, même plus... devant Donnarumma. Non. Ça, c'est rare quand même.
Mais devant le gardien numéro 1.
Il joue plus que le gardien numéro 1 du PSG.
Mais on en voit les
c'est
chiffres.
Vraiment qu'il aime pas Luis Enrique.
On en voit les chiffres à 22h dans cette émission ou pas? Non, mais sérieusement, il y a quelque chose.
C'est ce qu'on va faire là. J'ai ouais. La stat. Je vais ouais. La mettre à la place de Daniel.
Ouais, ouais, on va le mettre là. On va le mettre là. Mais ça ne m'intéresse pas ce débat, Walid. Ça ne m'intéresse pas ce débat, Walid. Tu ne comprends rien.
Et à Monaco,
tu comprends.
Mais temps, il le sort. Bref, voilà. Bon, c'était une info que je voulais vous donner. Troisième temps de jeu pour Vitinha, c'est la preuve de la confiance que lui accorde Luis Enrique. Tiens, je vais accueillir Thomas au 32-16. Salut Thomas.
Salut Nico. Salut
supporter du PSG. Bienvenue Thomas. Dans Génération After et sur RMC.
Bon, Walid, t'as pas le droit à tes bidons Walid encore, toi.
Non, ça c'est Flo, ça. Hein.
C'est
Flo, ça.
Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis à Walid, t'as pas le droit encore.
Non, ils sont plus sur la même ligne, hein, tous les deux.
Moi, pour le coup, je suis bidon, donc il n'y a pas besoin qu'ils me le disent.
Ah, voilà, d'accord.
Non, moi, il a déjà fait un été de merde ouais. L'été dernier.
Ça, l'été de merde.
Je sais pas si tu vas être meilleur l'été prochain. Ouais,
là, je me prépare uniquement pour l'été.
Bon, Thomas, il n'y a pas de débat sur Vitinha, c'est sûr. Le débat qu'on pourra avoir éventuellement, c'est Walid le préfère en 6 qu'en 8. Voilà, exactement, quoi. Toi, bon, c'est incontestable pour toi, c'est surtout un 6.
Bah moi je pense qu'il se prête vraiment à ce rôle et il l'assume très 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 bien et je pense que de toute façon en fait c'est notre meilleur 6 en fait pas par défaut, mais parce qu'il montre en fait sur le terrain ces derniers temps. Et dans son profil et sur ce qu'il propose, alors oui, peut-être que je sais que Daniel milite pour le mettre en 8, absolument, mais moi, je le garderai dans cette config-là, parce qu'il est très, très, très intéressant, et notamment ce qu'il a montré contre Lyon. Je pense qu'il n'y a que lui aujourd'hui au PSG qui fait ressortir la balle, aller de façon un peu pour les nostalgiques, à la, entre guillemets, à la Verratti.
Ce qu'il fait sur le quatrième but, là.
Voilà, mais ce qui, en fait, là, oui, ce qui va à un moment aussi, c'est qu'il. Il élimine deux joueurs, il élimine Kaitré en faisant un tour sur lui-même et il casse une ligne en fait avec deux joueurs supplémentaires en faisant une passe pour Warren. Et là, Warren peut éclater et se projeter. Et c'est typiquement, à mon avis, ce qu'il faut continuer de faire en fait dans les prochains matchs avec Paris. C'est là que tous tes joueurs sont intéressants parce que Warren, c'est là où il est intéressant quand il se projette aussi. Donc Vitinha, il est monstrueux et moi je suis surpris, je le disais aussi à Max au standard. C'est de par son gabarit, mais enfin, malgré son gabarit, en fait, le nombre de ballons qu'il peut récupérer, il se place extrêmement bien. Il est toujours là à sentir, à anticiper, à bien se placer, et après, il relance très, très vite. Il joue, il donne, quand il faut accélérer, il accélère, quand il faut temporiser, il temporise. Il remplit ce rôle de 6 merveilleusement. Alors, on peut débattre, certains vont dire qu'il faut le mettre 8 absolument, etc., mais. Moi, je pense que.
Ah, mais si tu as un Bruno Guimarães qui arrive cet été, un Enzo Fernandez, là, je regarde Arsenal-Chelsea, devant la défense, bon, ça va coûter très cher, mais bien évidemment, tu me le remets en numéro 8. Mais cette année, quand on voit les matchs d'Ugarte à Newcastle et à l'AC Milan, quand on voit les matchs de Fabian Ruiz, première mi-temps contre la Real Sociedad, où tu t'es fait tourner, et quand tu vois les matchs de Vitinha au poste de numéro 6, si personne ne voit de différence quand même dans le jeu du Paris Saint-Germain pour ressortir les ballons, bah là, il faut changer d'opticien, il faut changer de télé, il faut changer de chaîne, parce qu'il faut mettre la bonne chaîne. Parce que sincèrement, moi, je vois une énorme différence. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, alors attention, ça, c'est pas un avis tranché. Je me pose cette question-là. Je me dis que quand il est 8, parfois, il est souvent dos au jeu. Parfois, il est obligé de se retourner, de mettre.
Et sur un seul côté du terrain.
Ouais, si voilà. Là, moi, je trouve qu'il a plein de perspectives avec le ballon. Alors, comme l'a dit Simon, il faut qu'il soit protégé aussi. Hein. Peut-être un joueur avec un gros volume à côté. Mais moi ça me plaît.
Et pourquoi pas un joueur plus haut dans l'axe, hein, pas sur un côté, pas en 8.
En 10, non. Damien. En 10, ça n'a pas fonctionné non plus.
Non, je pense pas. Parce qu'il va être beaucoup plus dans le défi physique aussi. Et est-ce qu'à un moment donné, il va pouvoir répondre à ça, avoir vraiment, soit des centraux qui vont sortir fort sur lui et sentir que, comme on dit, ça tape au cul, ça va être compliqué. Non, moi je pense qu'il lui faut vraiment ce profil où il n'y a personne à côté de lui et que ce soit lui le dépositaire du jeu à la ressortie de balle et cette vision de pouvoir organiser le jeu et que derrière lui il puisse aussi se projeter parce qu'il en est capable, il a le coffre physique pour pouvoir le faire. Moi je trouve qu'en numéro 6 c'est très bien pour lui.
C'était qui ton meilleur numéro 6 toi devant toi que tu as eu?
Le meilleur non, avec qui j'ai joué et je lui fais un gros coucou, c'est Kevin Anin, s'il nous écoute.
Ah, oui, bien sûr.
Kevin, à l'époque, à Sochaux, c'était vraiment monstrueux.
J'ai pas le soyeux également. Il a tapé
à la porte. Ouais. Et il était parti, à Nice avec l'UPL.
Ah, mais
ça a été vraiment le.
Un vrai aussi.
Ouais, techniquement, très fort et puis un monstre de la nature physiquement.
Toi, c'est quoi la génération à Sochaux déjà pour les plus petits?
Marvin Martin, Boutbouz, Bronny Day. Modibo Maïga,
Francis Gillot,
Jérémy Bréchet,
Maurice Bellet,
Nicolas Maurice Bellet.
Ouais. À gauche, il y avait Boukari Dramé.
Vous finissez quatrième, non, cette année-là?
Cinquième, ouais.
Cinquième.
Et David Sauger à droite.
Il y avait du ballon, quoi, dans les
Ouais, on avait, à domicile, on en a fait souffrir quelques-unes, et à l'extérieur aussi, notamment à Bordeaux, juste pour vous rappeler.
Ah, t'as déjà pris la température sur les affinités de.
Ouais, j'ai cru qu'on
pouvait. Il a compris pendant la pause.
Les Girondins
étaient. D'ailleurs, t'as rien fait au Red Star.
D'ailleurs, Bordeaux a marqué, Nico Paul Orsi.
Ouais, Bordeaux a marqué, un très joli but. Hein. Et que c'est, franchement, dans la construction, c'est mérité. Sur ce que proposent les Girondins depuis le début.
Voilà, Riera, alors.
Ah, bah oui, la patria.
C'est un génie, Riera, personne ne le comprend.
J'ai bien compris. Vous comprendrez dans 100 ans.
Alors franchement, il y a des bonnes choses quand même à Bordeaux dans
pas
le jeu.
Le but, lui, hein.
Bon voilà, après c'est compliqué au niveau des individualités, de l'effectif aussi qu'il a à sa disposition. En tout cas, ce but il est beau, passe décisive de Gaëtan Vesbeck et la reprise de volée super instinctive de Vipotnik qui mine de rien marque son 9e but de la saison. Ça fait du bien aux Girondins qui continuent de se ruer à l'attaque. En tout cas, ils ont une attitude positive malgré le contexte qui est très pesant au stade ce soir. 1-0.
Allez, Bordeaux va dire j'ai un bon maintien Ligue 2 là ce soir peut-être. but également entre Guingamp et Angers, Xavier Grimaud.
Exactement, l'ouverture du score pour le SCO il y a quelques instants, c'est un bugag, hein, avec une ouverture d'Abdelli en profondeur. Le ballon il est un petit peu fort et c'est... c'est Basilio, le gardien, qui fait une belle glissade pour la récupérer. Il voit qu'il va sortir de la surface. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche le ballon. Justin Kalumba, l'Angevin, était juste là et peut enrouler dans le but vide. Du coup, il aurait mieux fait de concéder le coup franc à Enzo Basilio. Il a mal géré la force de l'ouverture d'Abdelli. Ça fait 1-0 pour le SCO, qui n'était pas spécialement dominateur sur cette rencontre et qui prend l'offrande avec plaisir. 1-0 pour les Angevins, il reste 3 minutes avant la pause.
Y a-t-il eu d'autres buts de Edgar Groulot sur les autres pelouses?
Oui, l'ouverture du score de Rodez face au Paris FC.
Rodez,
le but contre
incroyable.
Son camp de Timothée Kolodziejczak. C'est un match très important hein, puisque Rodez 5e joue le Paris FC 4e. On le rappelle, le 5e est qualifié pour les playoffs pour pouvoir monter à la fin de la saison. Et puis 3 s'est vu refuser un but. 3 qui est mené 1-0 par Pau.
Le cinquième démarre l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta, c'est-à-dire qu'en fait,
mais si c'est ouf,
ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer contre le quatrième, ensuite il va jouer contre le troisième.
Et après, il y a une boule de feu qui arrive aux entraînements, il faut que tout le monde l'évite.
Il lance 3D, s'il fait 3 fois 6, il peut jouer le troisième.
Il joue sur une jambe le barrage contre la Ligue 1.
Exactement.
Voilà,
avec 3 matchs à l'extérieur.
En tout cas, Rodez,
après, ils monteront en Ligue 1 à ce moment-là.
Rodez, s'il lève le doigt. C'est quand même fou. Hein,
ouais, ah oui, c'est dingue.
Les gars, c'est la réussite de la saison en France.
Jusqu'où ça
va? Il y a Rodez en France, mais c'est fou.
Ouais, c'est bon. Incroyable.
Thomas, merci d'avoir fait le 32-16. Tu voulais ajouter quelque chose? Tu peux?
Non, bah écoute, j'espère que voilà, Vitinha continuera à performer de cette façon et nous emmènera. Voilà, je ne veux pas porter malheur, mais continuer ses performances et je souhaite ça à tous les supporters du PSG en tout cas.
Et dans une semaine contre le Borussia Dortmund notamment. Thomas, bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. N'hésite pas à nous rappeler dans un instant. Tiens, on va prendre un autre joueur du PSG, Bambi. L'agneau est en train de devenir quoi? Ce serait quoi l'équivalent? Un lion peut-être?
Carnassier. Oui, oui, oui.
Carnassier, si tu veux, c'est plus large. Simon va en parler, c'est David Simon à venir dans Génération After. Il veut Bradley Barcola à l'Euro. Et d'ailleurs, je crois que Damien veut faire un mea culpa lui aussi ce soir.
Un
concernant
tigre,
Bradley
un tigre,
Barcola.
Un tigre, non?
Ouais, plutôt un tigre.
Un lion, s'il n'est pas encore méchant.
Ouais, pas méchant, c'est pas
ouais,
un lion.
Ouais, c'est un tigre.
Tigrou quoi.
Ouais, un tigrou, ouais.
Tu préfères tomber sur un tigre qu'un lion? On est sûr que c'est beaucoup mieux, ouais.
Non,
ah, moi, j'ai jamais rentré
dans ce débat-là. Sinon, qui est le rapport entre l'hippopotame
ouais,
et.
Ouais, voilà, on en est là.
On est sur National.
Il commence à comprendre le principe de l'after.
Damien,
déjà, dès le premier soir, il a capté. Il a pas accroché sur le débat coiffure.
Ouais.
Mais ça va venir.
Il fait un très bon, il fait une très bonne heure et demie.
Allez, en général, il est plongé en fin de match.
Ouais,
hein. Il a pris des buts en temps additionnel, Damien.
Les entraîneurs ont toujours dit c'est les 5 dernières minutes qui sont les plus importantes sur ta note à l'équipe.
Allez, reste avec nous, c'est Génération After sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Simon Butin, Walid Acharchour et Damien Perquis sur RMC dans Génération After 21h32. N'oubliez pas, à 22h, l'After prend le relais avec Gilbert, Daniel et Flo Gautreau et Sébastien Bassong hein, qui sera là ce soir également et qui est avec nous notamment à Abidjan pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours intéressant, Sébastien, ami de l'After, qui est venu aussi à la Coupe du Monde de Qatar nous voir en studio. Il sera là dès 22h. Il fera les 2h ce soir. Ancien joueur de Tottenham notamment. La Ligue 2, un but a été marqué entre Guingamp et Angers, Xavier Grimaud.
Ouais, l'égalisation guingampaise après l'ouverture du score de Raoul Issoa avec une superbe passe hein, dans la profondeur de Sidy Bé. Baptiste Guillaume qui bute une première fois sur Yaya Fofana. Il a un peu de réussite le Belge, ça lui revient sur la jambe et il égalise dans ce match. Il n'a pas célébré son but lui, l'ancien Angevin, et ce 1 partout à la pause. La pause est sifflée à l'instant et assez conforme au match. C'était un peu dur pour les Guingampais d'être menés 1 partout.
1-0 pour Bordeaux face à Dunkerque à la mi-temps. Nico Polanski est libéré pendant la pause. Mon cher Nico, on te retrouve tout à l'heure. Auxerre Laval, Fred Joly.
Là, Auxerre mène 3-0. Et c'est surtout que ça va devenir très très compliqué pour Laval, réduit à 10 après l'expulsion d'Antonin Bobichon. Il vient de s'essuyer les crampons sur le genou droit de Haillé, double buteur dans cette première période, puisque la Auxerre mène 3-0. Laval est réduit à 10. On vous rappelle les buteurs auxerrois, Lomami contre Sancan et le doublé de Haillé. 3-0 pour Auxerre dans un instant, la mi-temps.
Un but a encore été marqué entre Quevilly-Rouen et Amiens, Edgar Grolot.
Ouais, et même deux buts, puisqu'Amiens vient de mettre le troisième à l'instant. Déjà le but sur pénalty de Mafuta, et j'ai l'impression que là, Mafuta vient de s'offrir un triplé hein, sur cette action. 3-1 pour Amiens face à QRM, effectivement. Alors le ballon est contré, donc on verra si c'est un CSC ou un triplé. On fait le point quand même sur les scores à la pause hein. C'est la mi-temps presque partout, 0-0 entre Bastia et Concarneau, 1-0 pour Caen face à Annecy, Annecy qui en plus est réduit à 10, 0-0 entre Grenoble et Saint-Etienne, 1-0 pardon pour Rodez face au Paris FC, 1-0 pour Pau à 3 et 0-0 entre Valenciennes et Ajaccio à la mi-temps.
Les leaders hein, évidemment. notamment Auxerre, 64 points, Angers, 2e, 59, Saint-Etienne, 58e à la pause de la 34e journée de Ligue 1, Rodez, 4e, 53 points, comme Pau, 5e.
À vite, Simon Dutin. C'est le PFC qui sort de.
Exactement.
Des playoffs.
6e pour l'instant.
Pour l'instant.
Exactement. 52 points, un petit point, il restera, quoi qu'il arrive, 4 journées derrière. Simon voulait parler de Bradley Barcola, mais pas seulement. Une surprise également dans la vie à venir de Simon Dutin. Il veut voir Barcola, l'Euro. Jingle, Simon Dutin.
Bah, je suis déçu, je ne vais pas revenir sur l'Algérie, je ne vais pas tirer sur le corbillard. Je commence à en avoir claqué quelques-unes sympathiques. Hein, moi ouais, aussi, hein. Je ne suis pas encore au niveau de mon contradicteur favori. Mais,
je ne le souhaite pas.
Écoute. Oui, bon, alors je vais concéder tout de go que ce n'est pas l'avis le plus audacieux hein, quand même que j'ai pu.
Vends-le ton avis, dis pas ça.
Non, oui, comment ici, pas
mec,
comment
ça marche.
Attends,
bon, c'est pas le meilleur aspirateur.
Non, mais
il fait le boulot.
Je me mets à la place des gens qui nous écoutent, ils vont dire eh, merci gros, t'es mignon, mais bon.
Ne t'excuse pas, oui. Voilà, c'est pas grave.
Alors, c'est même pas que je veux voir Bradley Barcola à l'Euro dans la liste de Didier Deschamps, c'est que je sens bien un petit Bradley Barcola à l'Euro. Ah. Et on va me dire, tu as la même boule de cristal que moi à la maison. Parce que, au vu de ses dernières performances, de sa deuxième partie de saison, ça ne fait pas trop de doute. Bon, zéro sélection tout de même. Je me disais, c'est bizarre quand même qu'il ne l'ait pas appelé, et tout. En bossant un petit peu mon avis, là, pour muscler mes arguments, je tombe sur un papier des copains de l'équipe qui nous rappelle que, pour la dernière liste, Didier Deschamps interrogé pourquoi pas de Bradley Barcola. Alors, vous l'aimez pas et tout. Il a fait de belles choses, répond le sélectionneur. Il a besoin de s'affirmer aussi dans le contenu. Alors, je ne vous cache pas que je suis resté un petit peu quoi devant.
Il a dit ça avant la finale.
S'affirmer aussi dans le contenu, c'est-à-dire, t'es bon ou t'es pas bon. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il parlait de stats? Alors, s'il parlait de stats, effectivement, c'est pas dingo par rapport à même à ce que je pensais avant de préparer ça. Je crois que c'est pas plus de. Il a mis deux buts et six passes décisives.
Deux buts, six passes
ouais, matchs, c'est pas dingue. Mais bon, quand on regarde la dernière liste, bon, les attaquants pris par Dédé, Mbappé, Griezmann, Dembélé, Giroud, Marcus Thuram, pour moi, c'est garanti. Ils ont déjà leur chambre réservée à l'hôtel. Bon, reste Kolo Muani et Diaby. Et moi, je mettrais volontiers un Bradley Barcola à la place de l'un de ces deux. Je sais bien que Didier Deschamps valorise le vécu, l'expérience dans le groupe France. Bon, c'est un peu, tu sais, c'est comme le marché du travail, quoi. Si on te donne pas d'expérience, tu peux pas en avoir, et on te répond, bah, du coup, on.
Ah, c'est comme embaucher une nuit. Si tu rentres pas, tu peux pas devenir habitué, quoi.
Voilà, exactement. Exactement. Merci, mon cher Walid. Alors, certes, les stades sont pas dignes, sont pas dingues, mais je trouve qu'il a quand même peu d'équivalent, ce jeune homme, dans le bazar qu'il est capable de mettre dans la moitié de terrain adverse actuellement. Il peut jouer à droite ou à gauche. Il peut même, je pense, dépanner dans l'axe. Lorsqu'il était jeune, il a joué dans l'axe.
Un peu moins.
Il est capable. Non, mais je veux dire, oui. Bon, situation oui. Critique, tu vois, au cours d'un match. Les rares fois où on l'a vu marquer, il est capable d'être clinique un petit peu devant le but. J'aime bien quand il arrive de ce côté gauche, là. Il a une spontanéité. Il peut finir les actions. Il défend, ce qui est important quand même pour un joueur de côté, a fortiori quand on connaît l'exigence de notre sélectionneur là-dessus. Je le trouve intelligent dans la transition, voilà, il ne porte pas trop le ballon, il est capable de la donner rapidement, de la faire sortir le ballon de ses pieds rapidement lorsque le jeu commande de faire ça. Et puis voilà, par rapport à la légende de l'équipe de France qui s'avance vers les grandes compétitions, il a ce petit côté, bon, selon les poncifs consacrés, le grain de folie, le vent de fraîcheur, tu sais, qu'on a besoin d'insuffler à un groupe, le petit nouveau qui débarque.
Ribéry, quoi, 2024.
Ribéry 2006, Valbuena 2010, Pogba 2014, Thauvin 2018. Tu sais, c'est trajectoire pour certains météorites.
Thauvin, il n'a pas porté le grain de folie non plus, 2018.
Ouais, sauf qu'il a coupé sur la ligne, hein, Thauvin, parce qu'il fait une saison
Uno,
d'anthologie.
Uno, très, très,
En 2018, il fait une saison
très,
d'anthologie.
Très, très, oui, il était beau, Uno, mais... Ouais. C'est pas le grain de folie Ribéry 2006, quoi.
Non, mais tu parles au niveau du temps de jeu, de ce qu'il a apporté dans la compétition. Mais sauf qu'il est allé se la peler, sa sélection pour la Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai qu'il a fait une grosse saison. Ouais.
Il fait une saison. Ah, mais extraordinaire. Il fait 20-18 CCC. C'est absolument monstrueux. Donc, je pense que notre ami. J'ai pas cité Chimonda, quand même. Hein. Je suis pas allé jusque-là. Faut pas abuser. Mais ouais, je pense qu'il
y a. T'aurais pu, c'est ton style.
Mais non, mais en revanche, je peux citer quelqu'un d'autre aussi.
Mais. Mais
me voir à l'Euro.
Puisque tu l'as dit, bah, la rédaction en chef, sachez-le, auditeur.
Attends, silence.
La rédaction en chef de cette émission m'a censuré.
Non, voilà. T'as pas censuré. On a voulu te protéger. Mais on a voulu te protéger.
Oh, ça va.
Simon Dutin va voir Barcola à l'Euro et peut-être un autre joueur également. C'est maintenant qu'il faut le dire.
Je sens, je vois Barcola. Je vous annonce Barcola à l'Euro. Et moi, je voudrais.
Mais bon, c'est bon. J'avoue. Je voudrais Del Castillo. Moi. Je voudrais qu'il prenne Castillo, un petit peu de French Flair dans cette équipe. Un remplaçant naturel à Antoine Griezmann, le successeur d'un Nabil Fekir. Voilà, ce pied gauche, ce flair, cet instinct.
La chambre les yeux. J'écoute les grandes gueules du sport le week-end. C'est incroyable.
Pourquoi on connaît moins le foot au grand
Non, c'est la formule, le verbe.
Ah oui, la prose. Mais
bon, faut donner la parole.
Ça n'arrivera pas
à tes camarades. Damien Del Castillo. Non,
Del Castillo, non. J'aime beaucoup le joueur, mais je pense qu'il
fait une très grosse saison.
Il fait une très grosse saison, mais bon, après, il y a meilleur devant lui.
Alors, Barcola, tout à l'heure, on s'est appelé, tu m'as dit.
Vas-y, juste une petite aparté à Simon. Il en a oublié un en 2012.
Il prend Ben Arfa en 2012, mais c'est pas lui la
dernière minute, quoi.
Un Euro 2012.
Un attaquant. Yem Villa.
Morgan Schneiderlin.
Non, Villa.
Pas, il sortait d'une grosse saison.
Malouda, Marvin Martin.
En Ligue 1,
Marvin Martin.
Marvin Martin, bien sûr.
Et mis un doublé contre l'Ukraine.
Exactement.
Non, pas contre l'Ukraine. Si, contre l'Ukraine, en amical.
Fantastique.
Ouais, en amical.
Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse pour Marvin.
Ouais.
On le salue.
Ouais. Toi, tu m'as dit, si Walid fait un mea culpa.
Ouais, j'aurais été capable d'en faire un aussi, parce que je l'aurais fait depuis mon canapé, en fait. Voilà, parce que c'est souvent que quand j'ai vu jouer le Paris Saint-Germain cette saison, je me suis dit. Aller poser 50 millions sur un gamin comme ça, qui arrive de Lyon, qui avait pas forcément, qui avait été bon, mais qui avait pas non plus percé l'écran et qui avait pas fait une saison complète. Je me suis dit, il faut en avoir pour les poser sur la table, les 50 millions. Et du coup, j'ai été un petit peu sceptique. Après, j'ai vu ses premiers matchs, j'ai continué à être sceptique. Et là, c'est vrai que depuis quelques temps, il me fait changer un peu d'avis. Je le trouve beaucoup plus simpliste dans sa façon de jouer. Je le trouve plus sûr aussi mentalement. Parce que je pense que ces mauvais matchs étaient à la base sur des débuts de matchs ratés où techniquement il avait raté beaucoup de choses, notamment dans les dribbles, dans les transmissions avec ses partenaires. Et là, je pense que depuis quelques temps, il a pris confiance, il a une certaine confiance qui lui permet d'assumer ses envies d'aller dans le 1 contre 1, d'aller provoquer, d'aller réussir des choses. Et je le trouve bien mieux. Et en fait, je comprends pourquoi. Même s'il est jeune et que les montants restent démentiels pour moi aujourd'hui dans le football, et on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément la valeur chiffrable qui est la valeur du terrain. Et
surtout quand c'est Paris qui passe à la caisse, en plus.
Surtout quand c'est Paris qui passe à la caisse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Barcola et pour le talent futur qui peut avoir et qu'il a déjà, mais qui peut avoir pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, à le voir en sélection. Je pense que Didier Deschamps a une forme de travail qui est vraiment basée sur le groupe, et c'est peut-être la malchance qu'il pourra avoir, c'est de pas intégrer quelqu'un d'autre justement dans la spirale de cette équipe.
Tu veux dire qu'il a pas forcément, il a pas le vécu,
normalement
il a pas le vécu, il a pas le côté voilà vie de château avec les autres, il a pas tout ça, et je pense que ça peut être malheureusement un point négatif pour lui. Si on le met en comparaison avec un Kolo Muani qui avait été très bon quand il était rentré à la Coupe du Monde, à chaque fois qu'il était rentré, il a été bon. Bah, Deschamps va peut-être rester sur cet aspect-là. Et un Diaby, il peut apporter d'autres. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer derrière l'attaquant. Voilà, c'est des choses qu'on peut aussi apporter différemment.
Moi, j'ai une lecture différente.
Moi,
j'ai une lecture différente. C'est que déjà, je suis complètement d'accord avec Simon. Je l'ai déjà dit, moi, dimanche soir. Pour moi, je vois pas. Il n'y a pas un monde où Barcola n'est pas à l'Euro. Déjà, en plus, qu'il y a eu l'information du jour, c'est qu'il y a 26 joueurs et pas 23 joueurs.
C'est pas encore confirmé.
Ouais, enfin, il y a une.
Ils sont en train de se mettre d'accord pour ça à l'UEFA.
Ça en prend la direction, et donc ça jouera en faveur de Barcola. Moi, je pense qu'il n'a pas pris Barcola sur le dernier rassemblement parce que Barcola était sur une dynamique moins forte qu'aujourd'hui, qu'il attendait de voir et qu'il voulait pas se créer des problèmes. Si je lis le Deschamps, et on l'a pratiqué quand même. Il prend Moussa Diaby parce qu'il veut pas de problème. Comme il prenait Bouba Camara, comme il prenait à une époque Lucas Digne, j'aime pas à employer ce terme, c'est pas des joueurs bouche-trou, mais ces joueurs, ils connaissent un petit peu les rassemblements, parce qu'à l'époque, Moussa Diaby, il était remplaçant à Aston Villa. Donc, sportivement, il y avait aucun argument pour le prendre. Et là, Et puis en plus, il se disait, si je rajoute, et je rajoute une dernière chose, c'est qu'il se disait que Coman allait revenir de blessure. Donc il allait prendre la place de Diaby, pas de problème. Là, Coman est blessé, il est out. Même si après, on ne sait pas hein, ce qui peut se passer, etc. Non,
mais a priori,
c'est rideau. Donc là, Moussa Diaby, exit Moussa Diaby. Là, il faut un mec qui peut jouer à droite, à gauche, qui est en pleine forme. Et en plus, il lui a... Comme tu parlais du mea culpa, parce que peut-être que lui aussi il était un peu sceptique ou il était pas assez conquis. Là, s'il est pas conquis avec une équipe du PSG qui est en demi-finale, voire plus si affinité, t'es obligé de le prendre.
Et c'est ça, ouais,
et surtout en plus le signal que t'envoies si tu prends Kolo Muani qui est remplaçant au Paris Saint-Germain toute la saison et Barcola qui pète le feu et qui on sait jamais hein, si on est positif va en finale de Ligue des Champions voire plus. Bah, t'es obligé de le prendre.
Et ça vaut aussi pour la comparaison, d'autant plus avec Diaby, parce que tu l'as rappelé, il a été remplaçant à Aston Villa, mais quand bien même il aurait fait toute la saison comme son début de saison et comme là les dernières semaines, bon, tu regardes un petit peu les altitudes auxquelles les deux oiseaux ont évolué cette saison.
Oui.
Bon, avant d'aller disputer une compétition comme ça, t'as envie de prendre le gars qui a brillé, parce qu'on se souvient, le déclic, il y a eu ce match contre l'OM où Luis Enrique le met titulaire, Barcola, il fait un match exceptionnel, à la fois dans l'animation, dans la provocation et le repli défensif.
Et puis le PSG, quand tu regardes, c'est un ascenseur à l'équipe de France. Warren Zaïre-Emery, il a fait quoi ? Un mois et demi ? Il a été en équipe de France.
Oui, mais comme disait Damien, là, maintenant, il ne reste plus qu'une liste, et c'est la liste pour l'Euro.
Ouais, après, vision de 66 millions de sélectionneurs, comme on dit toujours, il y a toujours des sélectionneurs et tout, on parle comme ça. Mais si on est dans la tête de Didier Deschamps et qu'il veut de la stabilité, il va fonctionner avec un groupe, et ça lui a donné des garanties, sauf au dernier Euro où ils se sont éliminés par la Suisse. Il est souvent resté avec ces mêmes 23. Là, la liste, elle est élargie. OK, on peut penser. En tout cas, pour moi, il sera dans la préliste. Ça, c'est une certitude. On va lui dire, prépare ton sac.
55 quand même.
Ouais, mais bon, tu prépares ton sac. Et moi, quand je recevais la prélisse des espoirs, j'étais content. Mon sac était prêt.
Oui, oui.
Donc, si demain tu dis à Barcola,
c'est terrible, ton sac est prêt. Putain,
ton sac, il est prêt.
Les chaussures sont
mieux lavées que quand tu vas jouer en championnat. Et t'es prêt, quoi. Donc, déjà qu'ils soient dans la préliste, moi, j'en suis sûr. Après, je te le dis par rapport à la vision de Deschamps. J'attends de voir parce que Deschamps, il aime avoir son groupe consolidé avec les mêmes joueurs.
Parce que Diaby, tu parlais de continuité, il n'était pas là sur les derniers rassemblements.
Non,
il est venu parce que Coman était blessé. Hein.
Ouais, mais il a été avant. Il y a été avant.
Tu vois, il est censé être excellent, c'est un mec qui pense, c'est lui qui rappelle.
Avant la Coupe du Monde, avant l'Euro.
Il ne fait pas d'histoire, il est là, on va pouvoir le poser sur le banc.
Barcola, il ne va pas faire d'histoire s'il est pris.
S'il est pris, je vois
pas pourquoi il va
pas donner la place de Mbappé, Barcola.
Mais c'est dans la façon de manager de Deschamps, je pense que c'est.
Et puis s'ils gagnent la Ligue des Champions, s'ils vont en finale avec Mbappé en neuf, Barcola à gauche, ça peut pas donner des idées aussi s'il y a un Giroud qui est un peu fatigué, s'il y a un Kolo Muani ou un Marcus Thuram pas fringant, et ben moi sincèrement s'il ramène pas Barcola alors que Barcola le mérite sur le terrain, moi je critiquerai Deschamps.
Bon, le mérite.
Non, mais je critiquerai.
En tout cas, Deschamps n'est jamais adepte des listes allongées. Hein. Il n'avait pris même pas 26 quand il pouvait le faire. Récemment, ce sera 23 ou 24.
Il a fait aucune grosse compétition, non, Diaby ?
Moussa Diaby, non. Pas d'euro, ni de Coupe du Monde. Voilà pour l'avis de Barcola de Simon. Dans un instant, tiens, on va lancer la soirée Ligue 2. On va parler du climat autour des Girondins de Bordeaux. Nico Paul-Arcy sera avec nous. Ça tombe bien, il est au stade. Bordeaux d'ailleurs qui mène 1-0 face à Dunkerque. Catastrophe, crise à Bordeaux. Plus 1 euro pour payer les jardiniers et pour cultiver les pelouses. Reste avec nous, c'est CRMC, c'est Génération After. A tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Simon Dutin, Walid Acharchour et Damien Perkis, on est ensemble jusqu'à 22h dans 7-8 minutes. Daniel Riolo, Gilbert Brébois et Flo Goutreau sont là pour l'After, plus Sébastien Bassong. La Ligue 2, c'est important ce soir, c'est la 34e journée, on approche du terme de la saison. Auxerre face à Laval, Fred Joly, c'est reparti.
Oui, depuis 3 minutes en seconde période et la J Auxerre retrouvée, la J Auxerre qui a eu un petit doute après deux défaites consécutives. Eh bien, les Bourguignons se sont remis en question et ils mènent 3-0 avec ce but de l'Omami contre son camp, le doublé de Haye et les Lavallois diminués puisque Bobichon a été expulsé après une grosse faute sur Haye. Les Lavallois sont réduits à 10 et Auxerre mène 3-0.
Guingamp Angers, Xavier Grimaud.
C'est reparti depuis 2 minutes, un partout entre Guingamp et le SCO. C'est le SCO qui a ouvert le score par Raoul Istoa, la grosse erreur de Denzo Basilio, l'égalisation plutôt logique de Baptiste Guillaume juste avant la pause. Angers qui pour l'instant maintient à distance Saint-Etienne qui fait match nul aussi, est tenu en échec ce soir, mais attends, attention parce qu'il n'y a plus beaucoup de marge. Et là, cette première période n'était pas extraordinaire hein, de la part du SCO. C'est un match assez équilibré. Un partout, la 48e.
Edgar, sur les autres pelouses, est-il le début depuis le retour des vestiaires?
Eh bien, à l'instant, l'ouverture du score de Valenciennes face à Ajaccio, ça fait 1-0. Pour le reste, ça bouge pas. Hein, le but du jeune Foué Ondoa qui ouvre la marque donc, pour Valenciennes au retour des vestiaires.
Les autres scores sur les autres pelouses?
Alors, les autres scores, je vais te dire ça tout de suite, avec toujours 0-0 entre Bastia et Concarneau, 1-0 pour Caen face à Annecy, 0-0 Grenoble-Saint-Etienne, 3-1 pour Amiens sur la pelouse de QRM, 1-0 pour Rodez face au Paris FC, 1-0 pour Pau face à 3, et donc Valenciennes mène 1-0 face à Ajaccio.
Et le but magnifique de Zourico à Bordeaux contre Dunkerque, Nico Paul Orsi.
Ouais, le deuxième but bordelais, il est magnifique. Ils ont su exploiter dès la reprise de cette deuxième mi-temps une perte de balle de Dunkerque, la passe dans le dos de Vipotnik pour lancer dans l'intervalle Zourico Davitashvili qui, sur le côté gauche de la surface, vient fixer Koné, le gardien d'un carquois, et il met un amour de ballon piqué. Très beau but. Sixième but de la saison pour Zourico Davitashvili. Bordeaux qui se donne de l'air, 2-0. Bon, ça sent le sapin quand même pour Dunkerque parce qu'ils n'ont rien montré, les Dunkerquois. Et là, les Bordelais à 2-0. On se dit que ça peut aller très vite. Juste, on suit cette action peut-être avec ce ballon lancé dans la profondeur. C'est Alexis Pitou. Ça va être bien défendu par le capitaine de Dunkerque. 2-0 pour les Girondins.
Ça sent le sapin pour Dunkerque, ça sent le maintien pour Bordeaux.
On va avoir une grosse conférence de presse de Riera.
Ah ouais, parce que là, je pense qu'il a réinventé le football ce soir.
Le post Instagram de Riera ce soir
j'espère
à minuit,
j'espère.
Il va nous expliquer comment il a battu Dunkerque.
Comment c'est pas,
je vais le liker. Hein.
Comment c'est pas comme ça là.
J'espère que Pep, que Jürgen, que Thomas, Kounaï regardent le match ce soir et prennent une leçon.
Je vais partager la story moi.
Parce que là, bon après, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas hein, selon lui. Hein. Pas dévoiler tous les secrets non plus. Tiens Nico, justement, reste avec nous. On parle de Bordeaux un peu, il nous reste 3 minutes, pas mal de messages. Tiens, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, on nous dit qu'il va bientôt falloir ouvrir une cagnotte pour les Girondins, une cagnotte Litchi. Rappelons, hein, Daniel en parlait hier, l'entreprise prestataire chargée de l'entretien du terrain des professionnels au Hayon, son entraînement n'a pas été payé depuis plusieurs mois. C'est ça, ouais. Nico ?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas les seuls. Hein. Il y a aussi les médecins, les vacataires. Vous savez que dans un club de foot, il y a des kinés qui sont staffés, qui sont salariés du club, mais il y a aussi au Girondin des médecins vacataires qui ont leur cabinet, mais qui sont des intervenants très très réguliers du club. C'était le cas du médecin des Girondins historiquement, Thierry Delmeul à l'époque, par exemple. Et bah ces personnes-là aussi n'ont pas été payées. Donc du coup, ils ont fait grève. Ils sont plus là. Ça a été le cas hier pour les jardiniers. Daniel le disait, qui ont déserté le Hayan. En fait, ils sont partis avec leur tondeuse. Ils n'étaient pas payés depuis plusieurs semaines.
Okay, et... le mec a la photo de ça, des jardiniers qui partent avec la tondeuse, tracteur et pelle. Ouais, c'est extraordinaire quand même.
Ouais, c'est assez dingue. Il n'y a pas de retard de paiement pour l'instant pour toute la partie sportive et administrative. Donc voilà, Gérard Lopez, en fait, ce qu'il fait, c'est que les finances sont très, très, très tendues. Il remet au pot vraiment pour que le club survive. Mais on se demande comment les Girondins vont faire déjà pour boucler cette saison. Si ça en reste là, et puis je vous parle même pas de l'été prochain. Il annonce toujours qu'il va faire venir des investisseurs au capital. Le problème, c'est que les offres qu'il a eues, il les a refusées. Les offres assez solides. Donc voilà, on a du mal à y voir clair. Enfin, on se demande même s'il y a une stratégie avec Gérard Lopez.
Parles un peu ou pas en off ou pas du tout? Parce que cet homme-là est muet, quoi.
Je vais pas vous mentir qu'on n'a pas les meilleures relations du monde avec Gérard Lopez. Nous, RMC et
personne, hein, parce qu'il parle à personne.
Et l'entreprise qui communique, si, il a certains canaux de communication via certains journalistes.
Les fameux canaux.
Il y a une entreprise qui gère sa communication, Havas aussi, qui nous répond. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de voir Gérard Lopez.
Il y a une boîte qui est payée pour gérer la communication de Gérard Lopez. C'est extraordinaire.
C'est
emploi fictif.
Et puis c'est une entreprise qui était payée assez grassement.
Ah d'accord, voilà.
C'est génial.
Voilà.
Ils ont réduit le contrat. Ils ont fait ça quand Bordeaux était en Ligue 1. Ils ont bien évidemment été beaucoup moins payés, cette boîte, quand Bordeaux a été rétrogradé en Ligue 2. Mais ils conseillent.
Mais pour
toujours.
Payer les mecs qui arrosent la pelouse, il n'y a plus personne, quoi.
Il y a des gars qui font ça comme sans com.
Ah, non, mais donc du coup,
les gars qui tournent la pelouse.
Du coup, il y a l'histoire de la tondeuse. Mais je vous passe les détails.
La tondeuse,
mais le centre de formation, il n'y a plus aucun frais qui est engagé pour le centre de formation.
Ah oui, c'est incroyable.
Il n'y a plus rien qui se passe. Il y avait un problème de pompes pour arroser les terrains. Les pelouses, c'est quand même l'outil principal d'un footballeur. T'as pas de pompe au Hayan qui marche depuis plusieurs semaines, depuis quelques mois.
Donc, parce qu'elle est cassée, c'est ça?
Elle est cassée et personne ne la répare. Ah,
c'est dur de la réparer, ouais, c'est voilà. En même temps.
Donc, c'est très très difficile. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que pour l'instant, les joueurs, eux, continuent à être payés. qu'ils se battent, hein, à l'image de ce soir. Voilà, ils lâchent pas, ils sont dans leur truc. Mais même Riera, quand on parle de son avenir, compliqué pour lui de se projeter. C'est pas du tout le projet qu'on lui a vendu quand il est arrivé en octobre.
Ouais, enfin, c'est pas le projet évidemment. Qu'il nous a vendu lui aussi, hein, dans
non,
le jeu.
Non, mais je vais pas le défendre. Il a d'énormes défauts, Albert Riera. Il s'est mis toute la Ligue 2 à dos dans sa communication. Même nous, des fois, quand on assiste à ses conférences de presse, c'est un peu lunaire. On se dit, mais le gars, il est hors sol. Avec l'effectif qu'il a, il nous parle de trucs, tu vois, des comparaisons avec Manchester City. T'es là, après la Ligue des Champions, ces petits chocs thermiques, hein, à chaque fois. Mais c'est pas ce qu'on lui a. On lui a dit que quand il allait arriver cet hiver, des joueurs allaient arriver. Et en fait, Bordeaux a été placé sous encadrement de la masse salariale, pas de vente de la part de la DNCG. Donc voilà, il a pas pu faire ce qu'il voulait non plus. C'est bon. Pas ultra facile de bosser non plus pour lui. Hein.
Ce voilà. sera évoqué dans l'after tout à l'heure, notamment le cas Albert Riera qui nous régale en conférence de presse. Peut-être ce soir, il va nous régaler encore une fois.
Ah, moi, je suis devant là. Je sors de là.
C'est déjà un événement maintenant.
Ah, moi, je suis devant moi.
Bon, ce sera dans
moi, l'after. J'attends la conf où Riera va lâcher ses joueurs. Et là, ça va être exceptionnel. Ça peut arriver d'ici la fin de la saison. En mode Gustavo Poyet quand il avait pété un plomb là, sur les dirigeants.
Poyet.
Ah, oui, moi, je vous dis que si jamais ça se passe mal, alors Riera n'est pas du tout comme ça. Il défend ses joueurs depuis le début. Et pourtant, des fois, tu sens que il en a gros sur la patate. Mais le jour où il décide de tout lâcher, ça peut être exceptionnel.
Imagine qu'à Bordeaux, on est à regretter Francis Gillot, l'époque Francis Gillot, qui avait des bons résultats. Hein.
Ouais, au final,
il a des bons résultats. Un peu moins Gourvenec quand même. Damien, merci.
Ah, Gourvenec, si, il a des bons résultats. Attends.
La première année, Gourvenec.
Oui, première année, ça allait.
Ouais. Gourvenec, il se fait jeter alors qu'il est 8ème de Ligue 1. Hein. Ouais.
Non, mais rafraîchis-lui la mémoire, Nico.
Ouais, enfin,
il a oublié.
Pour les Girondins. Ouais, vous avez
Damien,
oublié.
Merci, Nico. Toujours 2-0 pour les Girondins. Damien, merci beaucoup.
Merci.
C'est un plaisir de t'accueillir.
Très belle première.
Ouais, bon.
J'aime beaucoup.
Bien, facile.
Ouais.
On sent le mec écouter l'after.
On va le garder.
Voilà. Merci Simon, merci Walid. Dans un instant, merci Gilbert, Daniel et Flo pour l'after. Jusqu'à minuit sur RMC. Bonne soirée à tous.
Salut, ciao.
Génération After.